Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large. On va notamment rendre hommage à Anne Sylvestre qui nous a quittés hier. Vous trouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h20 à 10h. Bertrand Chameroy pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain et dans une poignée de secondes, Charles Decamp pour les audiences et le journal des médias. Notre info média, c'est le conseil de déontologie journalistique et de médiation, une sorte de gendarme de la presse qui fête son premier anniversaire. Il a ses détracteurs comme le patron du Point Étienne Jernel, mais également ses soutiens de plus en plus nombreux. Nous recevrons son président Patrick Evenot. Puis nos invités, Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France. Elle prépare la grande soirée du samedi 19 en direct du Puy du Fou, avec rien que des Miss dans le jury, mais aussi le Covid, elle nous dira comment. Et sans Geneviève de Fontenay, elle nous dira pourquoi. Enfin, le jeune humoriste Samuel Bambi qui présente avec toute la nouvelle génération de comiques le tout nouveau gala du Jamel Comedy Club. C'est ce soir sur Canal+. Et il y aura en prime son portrait inattendu. Et au passage, je voudrais saluer quelqu'un qui a beaucoup fait et qui fait beaucoup pour mettre en valeur les jeunes humoristes. Il nous écoute tous les matins. Il l'a même dit hier au Parisien, Michel Drucker. Michel, je vous le dis, on a hâte que tu reviennes. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, c'est quoi le sommaire du jour?
Le bout du tunnel pour 3,5 millions de personnes, un cadeau de Noël avant l'heure, une opération porte ouverte et le joli geste d'Apple.
Mais on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé.
C'est France 3 qui est en tête avec un téléfilm en rediffusion baptisé Un mensonge oublié au compteur 4 800 000 téléspectateurs, soit 20,4% du public. C'est 400 000 de plus que lors de sa première diffusion il y a 2 ans. M6 a pris la deuxième position avec la première demi-finale de La France a un incroyable talent saison 15. L'émission a été suivie en moyenne par 3 400 000 téléspectateurs, soit 16,1% du public. M6 est largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 29% de part d'audience. France 2 suit en troisième position avec le lancement de Prodige saison 7. Le talent show présenté par Marie-Sophie Lacaro a fédéré 2 500 000 téléspectateurs, soit 12,4% du public. Exactement le même score que l'année dernière. Et comme la semaine dernière, TF1 est faible en quatrième position. Toujours rare, assez rare pour être signalé. Avec la suite de la série Manifeste, à peine 2 300 000 personnes pour les deux premiers épisodes de la soirée qui en comptaient pas moins de 4.
Culture Média.
Et TF1 qui va récupérer Marie-Sophie Lacaro à partir de janvier pour le 13h de Jean-Pierre Pernaut. On commence ce journal des médias avec la délivrance promise ou annoncée aux 3,5 millions de personnes qui avaient été privées de télé et de radio depuis hier. Ça se passe dans le Sud-Est.
Le signal devrait être rétabli d'ici ce midi, selon le quotidien La Provence. Du moins, en grande partie, pas encore en totalité. Ça fait un peu plus de 24 heures que les équipes techniques de l'opérateur TDF travaillent d'arrache-pied. Elles sont intervenues suite à l'incendie, a priori criminel, qui a frappé le relais du massif de l'Étoile au nord de Marseille. Ça s'est passé très tôt hier matin. Le massif de l'Étoile, c'est le deuxième relais le plus important de France. Résultat, 25 des 30 chaînes de la TNT et 19 stations de radio FM ne sont plus émises dans le sud-est du pays. Les chaînes et radios en question restaient cependant toutes accessibles aux utilisateurs de box internet ainsi qu'en ligne.
C'est Noël avant l'heure pour TF1.
Oui, TF1 s'est offert un joli cadeau en lançant le mois dernier Ici tout commence. Le feuilleton quotidien de la chaîne a immédiatement trouvé son public et a fait nettement progresser ses audiences. Plus de 4 millions de téléspectateurs sont au rendez-vous pour chaque épisode tous les jours à 18h30, une fois le replay pris en compte. Et la hausse est particulièrement impressionnante sur les cibles jeunes et sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, deux cibles qui sont très prisées des annonceurs. Plus 17 points sur les 15-24 ans et plus 13 points sur celles qu'on appelait autrefois les ménagères.
Et qui dit plus d'audience dit également plus de revenus publicitaires.
C'est bien simple, le prix des spots a doublé, c'est ce que révèle ce matin le Figaro. 30 secondes d'espace publicitaire sont désormais facturées 39 000 euros bruts par la chaîne contre 20 000 juste avant le lancement de la série. C'est particulièrement impressionnant dans un marché publicitaire fragilisé par la situation sanitaire.
Le focus média du jour, c'est l'opération Portes Ouvertes organisée ce mercredi par Mediapart.
Alors que la défiance des Français à l'égard des médias ne cesse de croître, le site d'information par abonnement met en place une grande opération transparente transparence. Le meilleur moyen, selon son fondateur Edoui Plenel, de couper court aux rumeurs et aux attaques parfois violentes dont le site fait l'objet.
Une journée comme celle-là, c'est aussi une façon de dire « Regardez comme tout ça est ridicule, on soulève le capot, on fait visiter les coulisses et tout le monde voit quoi ?» Ben, il voit un journal avec des femmes et des hommes passionnés par leur métier, qui en rendent compte sans aucun problème et qui sont unis par la passion démocratique de servir ce droit fondamental qui est le droit de savoir des citoyennes et des citoyens.
Au travers de conférences thématiques qui seront diffusées en accès libre, Mediapart veut expliquer comment l'info est fabriquée. Les intervenants répondront en direct aux questions des abonnés et des visiteurs en général, en espérant au final, évidemment, faire croître sa base d'abonnés qui s'élève actuellement à 220 000 personnes. Alors Mediapart, n'est pas le seul média à ouvrir le dialogue avec ses lecteurs en cette fin d'année. Le Monde organise du 14 au 17 décembre à 18h, 4 séances de questions-réponses en direct sur son site lemonde.fr.
Le focus programme du jour, c'est le documentaire « Femmes de la rue à l'abri » que France 2 proposera ce soir à 22h45.
Il s'intéresse aux femmes SDF, elles seraient 120 000 environ, soit 40% des sans-domicile fixe, selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. Mais c'est une estimation, on ignore leur nombre exact parce qu'elles se cachent pour éviter de devenir des proies. La réalisatrice du documentaire, Claire Lageny, a expliqué à Louise Bernard ce qui les poussait à devenir invisibles.
Être sans abri, c'est difficile et douloureux pour les hommes et pour les femmes. Mais je pense que quand on est une femme, on risque vraiment beaucoup. Voilà. Une des femmes dans mon film dit « Je me faisais violer tous les jours, j'ai passé 17 ans dans la rue ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force de ce propos.
C'est la deuxième fois que Claire Lageny s'intéresse aux femmes SDF après un premier documentaire en 2015. Depuis, la parole des femmes s'est libérée et des lieux d'accueil interdits aux hommes ont ouvert. La réalisatrice s'est penchée sur ces évolutions et propose un film relativement optimiste.
Je me suis laissée surprendre aussi de ces moments de vie où elle retrouvait un petit peu de sérénité, de douceur. Et elle lâchait un peu la survie pour s'ouvrir un peu plus au monde. Et effectivement, ça donne un film un peu plus doux. J'ai voulu être optimiste, mais vraiment, c'est pas l'idée, effectivement, de dire que c'est tout beau, tout rose. Pas du tout.
La situation est évidemment loin d'être parfaite. Il n'y a que 3 lieux d'accueil pour les femmes SDF qui apparaissent dans le film. Depuis, 2 autres ont ouvert à Paris, mais en province, il n'y en a pas. Femmes de la rue à l'abri, c'est ce soir à 22h45 sur France 2.
Et c'est l'heure des comptes du côté de chez Spotify.
Le leader du streaming audio publie cette semaine son classement Wrapped. Il s'agit des titres, des artistes, des albums ou encore des podcasts les plus écoutés dans chaque pays. Alors autant vous dire qu'il y a énormément d'enseignements à en tirer. C'est passionnant, surtout si comme moi vous adorez les classements des titres et des albums les plus écoutés. En France, la domination des artistes de la scène urbaine francophone se confirme. Attic, Maes, Gradure, Nekfeu, Nino, Jules, PNL, Dadju, ils figurent tous parmi les plus écoutés de l'année. Mais le directeur musique de Spotify, Antoine Manon, a assuré à Louise Bernard que les choses évoluaient.
On se voit aussi arriver dans les classements des artistes français qu'on va dire plus traditionnels, comme Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Michel Berger. Au départ, le streaming a été en premier adopté par des utilisateurs plutôt jeunes, qui étaient à l'aise avec les outils numériques et les applications. Et aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui est en train de se répandre et de se démocratiser, entre guillemets. Donc, à mesure qu'un public de plus en plus large plébiscite le streaming et les offres comme celle de Spotify, on voit que justement, tous les goûts s'y retrouvent.
Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, des artistes qui s'inscrivent dans la grande tendance de cette année si compliquée, la nostalgie. L'audio a été un véritable refuge en 2020. Et l'audio sur Spotify, ce sont aussi les podcasts dont la consommation s'est envolée, comme nous l'a expliqué la responsable podcast de Spotify, Claire Azan.
On voit que les podcasts cette année ont accompagné les utilisateurs de Spotify pendant toute cette période compliquée. Peut-être les habitudes d'écoute ont changé parce que la façon dont on a vécu les derniers mois a changé. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en effet, il y avait une forte augmentation du nombre d'utilisateurs de Spotify qui écoutaient des podcasts. Une augmentation de 117% pour les femmes et 76% pour les hommes. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a une grande diversité des formats parmi ce qui a été écouté, et ça c'est hyper intéressant, il y a à la fois les formats, les podcasts pour enfants. Il y a également des formats courts qui sont là pour un peu se cultiver, apprendre des choses. Et puis les histoires, en fait, tout simplement les fictions. Parce que je pense que les gens ont envie de se plonger dans d'autres histoires, d'autres récits.
Et en parlant de podcast, vous pouvez retrouver celui de Culture Média sur europe1.fr.
Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour un nouveau... Ah non, j'oubliais le joli geste d'Apple.
Bah oui, vous me coupez comme ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ça y est, c'est rétabli.
La marque à la pomme vient de dévoiler les 15 meilleurs jeux et applications présentes sur son App Store. Et dans l'une des catégories, elle n'a pas hésité à récompenser la concurrence. Selon Apple, la meilleure appli pour son Apple TV n'est autre que Disney+. C'est ce qu'on appelle être fair play.
Et puis pour être tout à fait précis, Infrarouge, le documentaire de Claire Lajoni sur les femmes SDF, ça sera à 23h40. Merci beaucoup Charles Decan. Cette fois, c'est fini. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour. On va parler d'un anniversaire, celui du Conseil de déontologie journalistique et de médiation créé il y a un an, jour pour jour. On fait le bilan de cette première année avec son président Patrick Evenot. Il sera avec nous dans ce studio. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Il y a un an, jour pour jour, était officiellement lancé le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, une instance indépendante chargée de contrôler, éventuellement de signaler, des fautes éthiques et déontologiques commises par des journalistes. Mais ce rôle, cette fonction, a été contestée dès l'an dernier par de nombreux médias, par de nombreux journalistes également, parfois avec virulence. Cette opposition existe-t-elle encore aujourd'hui? Comment le Conseil travaille-t-il avec les médias? Et quel bilan déjà pouvoir dresser pour ce premier anniversaire? Pour répondre à ces questions, Culture Média reçoit son président, Patrick Evenot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le président de ce conseil de déontologie journalistique et de médiation. Vous êtes également professeur émérite d'histoire contemporaine à Paris 1. D'abord, avant de parler du bilan, pour nos auditeurs qui ne connaissent encore mal le conseil, quoique vous soyez venu l'an passé à la même période, quelques mots sur son rôle et sur son fonctionnement. Il est là pour faire respecter les principes éthiques et déontologiques de la profession. Qui peut le saisir et comment ça se passe une fois que le conseil a été saisi?
Alors, tout citoyen français, mais aussi étranger, peut saisir sur un acte journalistique, c'est-à-dire une émission d'information ou un article de journal ou etc. d'information, évidemment, on ne saisit pas sur le divertissement. Tout citoyen peut saisir sur quelque chose qui est destiné au public français. Donc voilà, ça peut être même le président de la République, s'il veut, en Belgique où il y a un conseil de déontologie aussi, le roi des Belges a une fois saisi le conseil de déontologie journalistique.
Ah oui, c'était sous quel prétexte ?
C'est parce qu'il estimait qu'il avait été maltraité, qu'on n'avait pas respecté sa vie privée dans une circonstance où il était en famille, je ne sais pas quoi.
Donc chacun peut le saisir ?
Chacun peut le saisir.
À la suite de quoi ? Comment ça se passe ?
Alors comment ça se passe ? Nous sommes un organe tripartite, c'est-à-dire qu'on a un tiers de journalistes, un tiers de représentants des entreprises, diffuseurs, éditeurs, etc., agences de presse, et un tiers de représentants du public. Ça, c'est très important parce qu'on est toujours tripartite. On a un conseil d'administration qui est le conseil de déontologie qui a 10 membres de chaque collège. On a un bureau où il y a 3 membres de chaque collège, enfin, etc. On est systématiquement tripartite. Quand on reçoit une saisine, on l'examine et puis on fait un premier tri. C'est-à-dire qu'on la déclare recevable ou pas recevable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui nous disent « la place des femmes dans les médias n'est pas bonne ». C'est vrai, c'est un truc généraliste, ce n'est pas sur un acte journalistique particulier. Il y a des gens qui nous saisissent sur la ligne éditoriale. Ils nous disent « Valeurs actuelles est à droite et l'Humanité est à gauche ». Oui, ça c'est vrai, mais c'est une ligne éditoriale, s'ils ont bien le droit.
Pardonnez-moi, je souris, vous avez vraiment reçu ce genre de courrier ?
Mais oui, mais bien sûr, Donc là, on dit « Non, écoutez, c'est bon ». De même que sur un choix rédactionnel. Quand France 2 parle de la neige pendant 20 minutes parce qu'il neige, c'est un choix éditorial parce qu'ils estiment que leur public attend le bon. Donc ça, c'est pas recevable. Ou bien quand c'est hors délai, ou bien quand c'est une demande de droit de réponse, des choses comme
Alors maintenant, les cas recevables.
Les cas recevables, c'est quand on estime, dans un premier examen, que effectivement, ça met en cause soit la vie privée, le respect des personnes, soit il y a un conflit d'intérêts, soit il y a une manipulation de l'image ou du son ou de la citation de quelqu'un, enfin bon, etc. Tous ces cas-là qui sont recensés dans les chartes journalistiques qui sont à peu près toutes les mêmes, à ce moment-là, on dit c'est recevable. On désigne une commission de 3 personnes, un journaliste, un représentant des éditeurs, un représentant du public, qui étudie, qui analyse, qui écrit aux médias concernés, aux journalistes concernés, qui fait une sorte d'enquête, c'est plus une analyse qu'une enquête. On n'est pas du tout des policiers, on n'a aucun droit de sanction, on n'a aucune aucune violence policière de notre part, n'ayez pas peur, nous ne sommes pas des gendarmes, nous n'avons aucune sanction ni financière, ni... C'est simplement, on dit voilà, On analyse, mais en dialogue avec le média. Alors certains médias nous répondent très volontiers et discutent avec nous, et ça aboutit à un dialogue fécond. Et ça ne préjuge pas de comment on va terminer la saisine. Et puis d'autres médias sont violemment hostiles. Bon, il y en a deux ou trois qui nous ont répondu qu'on était illégitimes et qu'on ne servait à rien et qu'on était de toute façon des méchants et des liberticides et tout ça. Ouais. Bon, c'est pas bien grave. On continue quand même. Il y en a même qui nous ont menacé de procès si on continuait. On a quand même continué. C'est pas grave.
C'était qui ces médias, Patrick Evenot ? C'était Le Point ? C'était qui ?
Non, pas Le Point. Le Point, on ne nous a jamais saisi sur Le Point.
Je vais vous dire pourquoi je les cite. On va entendre Le Point, parce que l'an dernier, au moment de la naissance de ce conseil, il y a plusieurs médias, de nombreux journalistes qui l'avaient critiqué. C'est né de la volonté du pouvoir politique, disait-il, et pourtant ils ne l'ont pas soutenu, ce qui, selon eux, rendait le conseil illégitime. Un argument encore porté cette année, par l'un de vos opposants, c'est le directeur du Point, j'en parle à dessein, Étienne Jernel. Il est joint par Louise Bernard.
C'était une idée idiote qui aboutit à rien, puisque ce sont des gens dont la légitimité est proche de zéro. D'ailleurs, personne n'a de légitimité en la matière. Ceux qui jugent le travail des journaux, ce sont leur public, leurs lecteurs, d'une part, et d'autre part, la justice. Il y a quelque chose qui contrevient à la loi, auquel cas, ce sont des magistrats dans le cadre de procédures déterminées par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Tout ce qui s'ajoute à cela est nul et non avenu.
Étienne Jernel, le directeur du Point, que lui répondez-vous, Patrick Evenot ?
Alors, je lui réponds que ce qui dépend de la loi de 1881, nous, on ne s'en occupe pas. Quand il s'agit d'injures, de racisme, etc., on dit saisissez la loi, le tribunal correctionnel, la 17e chambre. Nous, on s'occupe du rapport entre... Les médias, c'est quoi ? C'est une entreprise avec une rédaction et qui a un public. Et il faut qu'il y ait une espèce d'harmonie entre les trois. Qu'il y ait un dialogue entre les trois. Mais il faut qu'il y ait un tiers de confiance extérieur. Ouais. C'est ça le conseil de déontologie. Il existe dans 20 pays de l'Union européenne, c'est pas pour rien. Et c'est pas liberticide comme le pensent un certain nombre de gens. Il y en a en Suisse, en Allemagne, en Suède, en Norvège, etc.
Et au Canada.
Enfin bon, on peut pas dire que ce sont des pays qui soient très autoritaires. Mmh. Voilà.
Qui sont les médias qui vous ont menacé de porter plainte ?
Je ne sais pas si j'ai pas un droit de réserve là.
Bah allez-y, dites-le.
Non. Mais on peut imaginer, c'est les médias qui
non, on ne peut pas imaginer, parce que justement, à sa création, vous avez été soutenu par exemple par des gens comme Jean-Luc Mélenchon, qui appelait de ses voeux la création d'une telle commission que la vôtre.
Il voulait un conseil beaucoup plus strict, avec des possibilités de sanctions, etc. Nous, d'abord, on ne fait jamais de censure.
J'ai posé ma question différemment. C'était plutôt des médias à droite ou c'était plutôt des médias à gauche ?
On peut dire que c'est plutôt des médias à droite.
Comment ça se passe concrètement auprès de ce conseil de déontologie journalistique ? Quel cas précis rendu ? 17 avis ont été rendus, 17 procédures. Comment ? Patrick Evenot nous raconte. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Patrick Evenot, président du conseil de déontologie journalistique et de médiation. Organisme qui fête son premier anniversaire aujourd'hui, jour pour jour. 17 avis ont été rendus par le Conseil, 17 procédures au cours desquelles les médias ont eu la possibilité de répondre aux reproches qui leur étaient faits. 17 seulement en un an, alors que vous avez reçu 123 demandes de saisine. Pourquoi aussi peu d'avis rendus ?
Alors, parce que même on est beaucoup plus maintenant, parce qu'il y a des saisines en groupe. Il y a des gens qui... Alors, on a par exemple, sur deux cas, on a à chaque fois 75 saisines. Bon, ils disent tous la même chose, donc on le considère comme une seule, parce qu'on regroupe tout. Bon. C'est sur 87 actes journalistiques. Pourquoi si peu d'avis ? Parce qu'on a eu du mal à démarrer au départ, avec le Covid, etc. Enfin bon, c'était un vrai problème. Puis là, il a fallu... Bon. Là, on va en rendre deux autres ou trois autres... Début décembre, on a une réunion le 8 décembre, donc on va en rendre deux ou trois autres. Pourquoi si peu ? Parce qu'il y a beaucoup de saisines qui sont irrecevables. Il y en a une cinquantaine, 60 presque, qu'on considère comme irrecevables. Et à chaque fois, on explique à la fois aux médias, aux journalistes et aux requérants ou à la requérante pourquoi on considère que c'est irrecevable.
Parce que vous disiez, comme par exemple, tout à l'heure, voilà. Une insulte à caractère raciste est de toute façon réglée par la justice.
Voilà. Et puis, on a fait 6 cas de médiation. Ce qu'on appelle médiation informelle, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très grave, c'est un titre mal foutu, etc. Quelqu'un se plaint, on envoie la plainte aux médias et on envoie la réponse au requérant en disant « voilà, bon, c'est vrai que c'est mal foutu, mais c'est pas pour ça qu'on va quand même faire tout un truc bon. ».
17 avis, seulement 5 saisines fondées, je vais les citer, le Huffington Post, Valeurs Actuelles, France 24, Sud-Ouest et LCI, pour la présentation discriminante d'un avocat, pour ne pas le citer, il s'appelle Yacine Bouzrou. Quel est votre bilan, votre sentiment? Vous avez l'impression que les médias sont quasi irréprochables en matière de déontologie?
Non, alors il y a deux biais. Le premier biais, c'est qu'on ne répond pour l'instant que à des saisines. Donc il faut que le public s'empare de l'outil CDJM pour qu'on puisse répondre à plus de saisines.
Je vous interromps d'un mot. Comment on s'empare de l'outil CDJM? CDJM.com, CDJM.fr?
CDJM.org. C'est une association.
Voilà.
Et puis, dessus, il y a saisir le CDJM. On remplit le questionnaire et ça se va très vite.
Donc déjà que le public s'empare de cet outil. Voilà. Ensuite.
Il y a des saisines qui sont non fondées, des saisines qui sont fondées, mais il y a aussi des saisines qu'on estime partiellement fondées. Par exemple, quand... quelqu'un a écrit au journal en disant « voilà, vous m'avez maltraité, etc. » et que le journal a repris le dialogue et a fait un rectificatif. Le premier article était fautif du point de vue déontologique, mais ils ont rectifié derrière. Donc, on ne peut pas dire que c'est une saisine partiellement fondée, ou à moitié, on pourrait dire. Enfin, voyez. Bon, voilà. Alors, les fondées... Bon, c'est quoi? Bah, par exemple, l'interview du boulanger lyonnais par Emmanuel Macron. Boulanger lyonnais qui est...
dont on croyait que c'était un boulanger anonyme, cite ça de mémoire, et puis on s'est rendu compte qu'il avait fait partie de son comité de soutien, où il travaillait avec Gérard Collomb,
je me trompe de merde. Et il n'était pas anonyme du tout, et ouais. Bon, voilà. Donc il y avait confusion de bon. D'ailleurs, le média a mis quelque chose après, parce que l'intérêt, c'est que le média qui a pu faire une erreur, parce que s'ils avaient vérifié un peu plus rapidement, ils n'auraient pas fait... qu'après, ils mettent sur le site internet, bon, voilà, on s'est trompé là-dessus.
Je vais me faire l'avocat de vos opposants. Ils disent que si les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs sont heurtés, sont choqués, sont mécontents du traitement de l'info, ils écrivent à leur journal, ils l'attaquent en justice lui-même. Par exemple, le lecteur d'un journal qui voit que le boulanger prétendument anonyme qui soutient Emmanuel Macron faisait partie de son comité de soutien, on peut directement écrire au journal, pas besoin de passer par vous. Que répondez-vous à cet argument?
Bien sûr qu'on peut, mais dans beaucoup de cas, d'une part, les citoyens ne savent pas comment écrire, à qui, quand, etc. Pour tout ce qui est la loi, ils savent pas saisir, ils n'ont pas le bagage juridique. Bon, ils vont pas prendre un avocat pour un article mal foutu. Et puis, dans beaucoup de cas, ça ne dépend pas de la loi. C'est simplement le respect des personnes, ou etc.
Ouais. Je vais revenir quelques instants aux critiques qu'on peut être agressées au CDJM. Certains pensent, je l'ai dit, que c'est pas aux journalistes de critiquer les journalistes, ni même aux auditeurs et aux diffuseurs. Et c'est un vieux débat. Exemple. Cette archive Europe 1, nous sommes en avril 1979, donc je fais ça de mémoire, 41 ans. Un sénateur, Henri Caillavet, propose une loi d'orientation de la presse. Il est interrogé par Yvan Levaille.
Concrètement, est-ce que vous voulez, comme certains, un conseil de l'ordre des journalistes pour nous juger quand la police et la justice considèrent que nous faisons des bêtises, ou est-ce que vous voulez autre chose?
Je ne souhaite surtout pas un conseil de l'ordre pour les journalistes. Je pense d'ailleurs qu'ils ne le veulent pas. Dès lors, j'ai imaginé la création d'une commission plénière devant laquelle pourraient venir s'expliquer les journalistes lorsqu'ils sont concernés par le secret, par les sources d'informations et tenues au secret. Dès lors, cette commission pourrait autoriser le journaliste à être délié de ses obligations de secret et partant pouvoir témoigner.
Là, c'est la révélation des sources qui pose problème, et la question d'un conseil existait déjà il y a 41 ans.
Oui, ça fait bien longtemps. Le gouvernement de Vichy a essayé de créer un conseil de l'ordre. Bon, évidemment, il ne faut pas de conseil de l'ordre. On est au sein de la liberté d'expression, on est au sein du droit du public à être informé. On ne doit surtout pas d'ingérence de l'État. Il n'y a pas de... Bon, voilà, on est dans le cadre d'une démocratie, et il faut qu'on y reste.
Ouais. Il n'est pas dans les attributions de votre CDJM d'intervenir a priori dans les débats qui concernent des procédures législatives ou des débats de société, mais Vous demandez le retrait de l'article 24 qui fait peser de lourdes menaces sur la liberté d'informer. On parle évidemment de la loi Sécurité Globale. Vous écrivez ceci. Les dispositions de proposition de la loi Sécurité Globale ne peuvent qu'affaiblir le crédit des médias traditionnels et de la confiance du public au profit des vérités alternatives et de la théorie du complot. Votre argument ?
L'argument, c'est que la liberté d'expression doit rester entière. Hein. C'est ça, vraiment, on est au sein de la démocratie, on est protégé par à la fois la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, etc. etc. On est dans ce sein-là. Mais là, la diffusion des images, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que les journalistes, le public, puissent s'appuyer sur des faits. Et les images sont des faits. Et on a bien vu le cas avec Michel Zecler. Hein. Bon, ce sont des faits qui sont montrés. Après ça, c'est à la justice de se prononcer. Mais si on n'avait pas de caméra pour filmer ça, eh bien, ça serait passé comme ça, en douce. Michel Zecler aurait été accusé de rébellion, etc., et mis en prison. Enfin bon, bref. Là, ce sont ces faits-là qu'il faut rendre au public, parce que le droit du public à être informé, c'est le fondement même de la démocratie. Dans une démocratie, si le public n'est pas informé, la démocratie ne vit pas.
Et si le public veut saisir votre organisme, cdjm.org, je le répète, cdjm.org. Merci beaucoup Patrick Evenot. Vous êtes le président du CDJM, le conseil de déontologie journalistique et de médiation. Merci d'avoir été avec nous un an après pour ce premier bilan. Merci beaucoup.
Merci
dans un
Philippe.
Instant, à parler des préparatifs de la prochaine élection de Miss France. C'est beaucoup plus calme avec une ancienne gagnante, aujourd'hui présidente de la société Miss France. C'est Sylvie Tellier qui arrive, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Sylvie Tellier.
Bonjour Philippe.
Vous êtes la présidente du comité Miss France, publié ce beau livre Sylvie Tellier raconte Miss France 1920-2020, c'est chez Hors Collection. Mais d'abord on va parler d'actualité immédiate malgré la crise du Covid. La cérémonie n'a pas été annulée, même si les présélections ont été un peu différentes. Ce sera samedi Miss France, samedi 19 décembre. En direct du Puy du Fou, vous confirmez la date, ça va se faire.
Écoutez, ça va se faire le 19 décembre, on croise les doigts, la date a été confirmée par TF1. Mais Philippe, vous voulez me fâcher ?
Pourquoi ?
Vous me présentez comme présidente du comité Miss France, ça va être très bien que ça énerve Geneviève de Fontenay, j'ai jamais été présidente.
Vous êtes ? Votre titre officiel ?
Alors aujourd'hui, nous avons ça l'organisation Miss France et j'ai le plaisir d'en être la directrice, mais je ne suis pas présidente.
Bon, on va parler de Geneviève de Fontenay, on va dire deux mots sur elle évidemment. Dans quelles conditions vous allez tourner ? Vous allez faire l'émission en direct, parce que c'est pas un tournage.
Ça a été une année très très compliquée pour tous les Français. Hein. On a revu toute l'organisation, les élections départementales ont été faites sur des candidatures digitales, ensuite pour les régionales, ça a pris plein de formes, on a fait du plein air, du huis clos, du vote SMS, on a fait toutes les formes. Et là, les candidates, eh bien, pour pouvoir rentrer dans cette organisation, déjà, on a créé une bulle Covid. Alors je vous aime beaucoup hein, parce que moi j'ai quitté les candidates, je vais pas pouvoir les revoir avant lundi, il va falloir que je reçuive tout le protocole de test, d'isolement, tout ça. Et les jeunes femmes ont été isolées, ont été testées et toutes les personnes de l'organisation sont testées Covid évidemment pour créer cette bulle et protéger notre élection.
Donc là chaque candidate, si je comprends bien, est dans sa chambre, elle n'a pas le droit de sortir et de croiser personne.
Si. En fait elles sont arrivées, elles ont été isolées, testées et une
mais
fois...
Mais elles sont ensemble, elles
ne
peuvent plus sortir.
Mais maintenant elles sont ensemble, oui, mais elles ne sortent plus.
Voilà, comme en Formule 1. Il faut quand même faire attention. Vous avez vu que Lewis Hamilton était déclaré positif au Covid alors qu'il y a une bulle Covid dans la F1.
Il faut faire très attention.
C'est Jean-Pierre Foucault qui va présenter l'élection. Il sera le seul homme, un jury féminin. Je crois que vous l'aviez déjà fait.
Oui.
Mais là, vous allez beaucoup plus loin.
Alors, c'est l'année du centenaire des concours de beauté. Donc, année exceptionnelle, on voulait un jury d'exception. Donc, un jury 100% Miss France. Elles n'auront d'habitude 7 membres du jury. Cette année, 9. C'était extrêmement difficile de... Voilà, parmi toutes ces personnalités et toutes ces femmes, TF1 a sélectionné 9 jeunes femmes. Donc ouais. Elles seront 9 Miss France, présidées par Iris Mittenard, qui a été notre Miss Univers également.
Ouais.
Et voilà, des femmes de tout horizon, de toutes les professions, carrières.
Et de toutes générations.
Toutes générations, bien sûr.
Voilà, parce que moi j'ai les noms, Muguet Fabrice,
notre
Patricia
doyenne.
Barzic, qu'on a beaucoup vu avec Jean-Pierre Mocky, Nathalie Marquet,
oui.
Madame Jean-Pierre Pernaut, Maréva Georges, Linda Hardy qui fait de la télé, Sonia Roland aussi, Elodie Gossuin, Flora Coquerel, Elodie qu'on peut écouter... tous les matins sur RFM. Haute première, vous allez réunir sur le plateau une trentaine d'anciennes Miss, c'est ça ?
Oui,
pour faire
30
quoi ?
Miss France vont ouvrir cette magnifique cérémonie.
Bon. Comment ça va se passer, comme d'habitude ? Qui va voter? Qui va élire la Miss? Le jury, le public.
Alors, évidemment, comme on a un jury exceptionnel d'anciennes Miss France qui sont extrêmement légitimes dans ce rôle de présidente du jury, elles ont été Miss France à leur tour, elles ont été élues par des Français, elles connaissent évidemment tous ces critères. Elles vont accompagner cette année vraiment le public jusqu'au bout. Et le public et le jury voteront pour élire Miss France 2021.
Alors, il y aura une absence de marque, vous l'avez cité avant même que je ne le fasse, c'est Geneviève de Fontenay qui a chapeauté le concours de 52 jusqu'à son départ en 2010. Pourtant, vous l'avez invité.
Ah, on l'a convié, comme je l'ai invité à participer au livre, comme nous l'avons convié sur cette photo historique que nous avons réalisée le mois dernier avec une trentaine de Miss France. Voilà, Geneviève a décliné l'invitation, c'est dommage parce qu'elle fait partie de l'aventure Miss France.
Elle l'a expliqué, c'était jeudi dernier sur BFM TV, pourquoi Geneviève de Fontenay a décliné votre invitation.
Elle m'a invité, mais j'ai dit, vous êtes gonflé. Vous m'invitez à quelque chose qui m'appartient. Elle a volé ma vie, là. Elle a volé. Elle m'a volé quelque chose. Centenaire, ça ne pouvait convenir qu'à moi, pas à Sylvie Tellier.
Vous lui auriez volé sa vie.
Alors, ce n'est pas mon anniversaire, je tiens à le souligner, je ne vole rien. Et il faut bien préciser quand même que Geneviève de Fontenay a vendu cette organisation Miss France il y a maintenant pratiquement 20 ans pour une grosse somme d'argent. Donc à partir du moment où on vend quelque chose à une société de production qui s'appelle Endemol, on ne peut pas accuser Endemol de voler quelque chose. Endemol a largement acheté cette marque. Et c'est bien dommage parce que Geneviève, dans l'esprit des Français, on l'aime beaucoup. Elle, c'est pas qu'elle fait partie, c'est qu'elle a créé ce concours. Moi, j'ai été élue grâce à Geneviève de Fontenay. Et on aurait aimé, cette année, la célébrer. Célébrer ce concours avec elle. Elle manquera aux Français.
Elle a un deuxième argument. Elle dit que Miss France, le concours de Miss France, ne représente plus la France des terroirs, la France des traditions. Elle dit que c'est devenu trop people. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je pense que Geneviève, malheureusement, refuse de voir que le monde avance, que la société évolue. Aujourd'hui, nos candidates représentent les Français. Elles sont encore plus, et il me semble encore plus, la photographie des jeunes femmes d'aujourd'hui, plus qu'il y a 20 ans. Moi, je ne me reconnaissais pas trop dans l'élection il y a 20 ans. Mmh. Aujourd'hui, vous pouvez demander aux candidates, elles se retrouvent dans les Miss France, elles se retrouvent dans le programme, elles choisissent leur maillot de bain, elles se régalent sur les chorégraphies. Ça doit être certainement très difficile pour Geneviève à un mois de l'élection, de voir toute cette communication. Je veux juste rappeler qu'il ne faut pas essayer de gâcher le rêve de ces candidates. C'est pas très bien.
Et puis elle dénonce un mensonge qui n'en est pas un, puisque vous répondez à ceci dans le livre. Ça s'appelle Miss France 1920-2020. On en parle juste après ça avec Sylvie Tellier. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Sylvie Tellier, qui dirige désormais les Miss France. On parlait de l'élection, de la grande soirée. Ce sera le 19 décembre sur TF1 en direct, présenté par Jean-Pierre Foucault, le seul homme ce soir-là. Et puis il y a ce livre chez Hors Collection. Sylvie Tellier raconte 1920-2020 les Miss France. Il y a un mensonge, je disais, dénoncé par Geneviève de Fontenay, qui n'en est pas un, puisque vous le dites bien dans ce livre. La première Miss France, c'était en 1928. Au début, en 1920, ça ne s'appelait pas Miss France.
Non, je n'ai jamais dit que ça... Mais c'est tout de l'art, c'est polémique.
Ça s'appelait la plus belle femme de
Mais
France.
Oui. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de célébrer la création des concours de beauté en France cette année? Je trouve ça super.
Vous vous rappelez le nom de la première lauréate?
Agnès Souré.
Voilà, elle venait...
d'Espelette.
Voilà, la ville du Piment. Et pour clore le chapitre Geneviève de Fontenay, vous lui consacrez une lettre ouverte dans ce livre. Est-ce qu'elle l'a lu? Est-ce qu'elle vous a appelé depuis?
Non.
Non aux deux questions.
Est-ce qu'elle l'a lu? Comme elle n'a pas appelé.
C'est vrai, c'était ma question.
Vous connaissez Geneviève, à partir du moment où elle ne le critique pas trop, c'est qu'il doit être bien.
Alors moi j'ai découvert plein de choses en lisant ce livre. Je pensais qu'avant les années 80 c'était des ravissantes idiotes, pour pas dire simplettes. Dans le métier, moi quand je commençais dans le métier, on appelait ça une interview Miss France. La fille qui vous disait qu'elle était contre la guerre, qu'elle aimait bien quand il fait soleil et qu'elle adorait les animaux. Mais pas seulement. En 63, je l'ai découvert, Miss France, c'était Muguette Fabrice, prof de maths.
Professeur de mathématiques, elle sera dans le jury, elle sera là sur scène.
Et pas n'importe quel niveau, prof de maths à Polytechnique.
Ouais.
C'est le plus haut niveau en France, elle sera dans le jury.
Elle sera dans le jury.
Qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Muguette?
Elle est à la retraite, elle a le droit, Muguette. Mais non, elle est ravie d'être là et je vous invite vraiment à échanger avec elle parce que c'est une femme, mais d'un humour et d'une spontanéité, d'une intelligence. Je remercie d'ailleurs toutes les Miss France qui seront là, plus de 30, enfin une trentaine sur le plateau de Miss France, ça n'a jamais été fait. Un véritable événement.
Il y aura Marine l'orphelin ?
Non, alors figurez-vous que Marine L'Orphelin ne sera pas là puisque sa sœur est candidate cette année. Donc Marine n'a pas souhaité venir à l'élection de Miss France, être dans le jury de Miss France pour respecter justement l'aventure de sa sœur.
J'ai lu un papier il y a deux semaines dans Closer qui disait qu'on n'a pas le droit de participer quand on est sœur et que vous avez fait cette loi pour
pas
vous.
Du tout,
on fait partie de l'organisation.
Voilà, en fait, mais comme dans tous les règlements, vous savez, si votre maman ou votre père travaille pour la Française des Jeux, vous n'avez pas le droit de jouer ou des choses comme ça.
Moi, j'aurais bien aimé qu'il tire le loto.
Quand un membre de votre famille travaille pour l'organisation, vous n'avez pas le droit de vous présenter. Mais bien évidemment, si votre sœur, votre mère, votre cousine a été Miss France, venez d'ailleurs, on en a deux. Miss Provence, sa grand-mère était Miss Marseille.
Ah, la grand-mère. Pourquoi je parle de Marine L'Orphelin ? Parce qu'elle était Miss France 2013. Elle se destine à une carrière de médecin. Elle a déjà fait 7 ans d'études. Elle est en deuxième année d'internat. Donc il y a un jour des gens qui vont se faire soigner par Miss France.
Mais déjà, puisqu'elle est interne. Elle est médecin aujourd'hui.
Ouais.
Et bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui se font soigner par Marine L'Orphelin. Et je crois qu'ils apprécient beaucoup d'ailleurs. C'est un très bon médecin.
Vous racontez des moments très très forts de l'élection, comme cette candidate qui s'évanouit. Elle s'appelait Peggy Zlotkowski. C'était Miss France 89. Image très forte. Pourquoi vous n'avez pas mis la photo ? Ou alors je ne l'ai pas trouvée ?
Alors il y a des photos de Peggy, mais
oui,
parce que celle-là on l'a beaucoup vue. Et j'avais envie de montrer d'autres photos. C'est quand même plus sympa de montrer Martine Robin en maillot Mickey Mouse à la Madeleine.
Oui, mais il y a 150 pages, on pouvait mettre là, parce qu'elle est mythique cette photo.
Mais Peggy sera là. Peut-être qu'elle vous fera un remake pour vous cette année en direct sur scène. Elle sera là à l'ouverture.
Détail étonnant, il y a 3 doubles pages avec les lauréates. Il y a des photos qui ont été perdues.
Il y a des photos qu'on n'a pas retrouvées.
Pauline Pau. Miss Corse 1921 et donc Miss France, perdu la photo, ou en 40. Je ne savais pas que ça avait lieu en 40. Alors là, en 40, c'est encore plus complexe que ça. C'était Joséphine Ladvig, elle était Miss Alsace. Et je me suis dit, c'est du militantisme anti-allemand, puisqu'on était en pleine guerre.
Oui, puis je vous le cache pas, les Miss étaient élues, destituées, revenaient, blessées. Donc il y a des années, il y avait 2, 3, 4 Miss. Il y avait des Miss France Outre-mer. Ça a été un sacré sac de nœuds pour essayer de créer ce palmarès. Mais... voilà, moi je souhaitais qu'elles soient toutes en photo, qu'on puisse toutes les voir, puisque ces 160 pages, j'aurais pu faire 3 volumes, et on fera peut-être d'autres tomes d'ailleurs.
Jean-Pierre Foucault donne des conseils, il faut les donner à toutes les Miss, il dit ce qu'il faut surtout pas faire le soir de Miss France. Racontez ce que raconte Jean-Pierre, quand il dit, il pose la question à une candidate, il dit « quelle serait sa réaction si elle n'était pas élue ?» Et elle répond… Vous avez oublié ?
Ben oui, j'ai oublié.
Vous n'avez pas lu votre livre ?
Ben, de quoi vous parlez ?
Jean-Pierre dit qu'elle a dit que ce ne serait pas grave. Et résultat, elle était en tête des votes et les votes se sont effondrés.
Ah, mais vous parlez de la dauphine de Maréva Galanteur, qui est peut-être qui a annoncé, en fait, au moment des 5. Jean-Pierre lui demande si elle veut être Miss France. Et elle dit, bon, non, pas spécialement. Si je ne suis pas élue, ce n'est pas grave. Et en fait, effectivement, elle n'a pas été élue. Elle s'est écroulée dans les votes. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est juge d'instruction à Bordeaux. Elle a fait l'école de la magistrature.
Autre info qui m'a vraiment étonné, vous écrivez à propos de Camille Serre qui était Miss France 2015, vous écrivez « critiquée sur son physique ouais. comme toutes les Miss France ».
Mais oui, parce que
elles sont critiquées, mais
avec les réseaux sociaux, vous ne vous rendez pas compte à quel point les Miss reçoivent des critiques physiques. Alors vous êtes soit trop mince, soit trop ronde, soit trop petite, soit des cheveux trop roux, trop blonds, des yeux trop noirs. C'est très compliqué pour une Miss France aujourd'hui, dans les années 2020, d'être élue parce que souvent, elles n'ont pas de complexes et elles se créent des complexes à cause des réseaux sociaux.
Comment vous voyez l'évolution du concours Miss France dans les années à venir ? Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent contre les concours de beauté, contre les défilés en maillot, et pas seulement de la part des féministes.
Et pourtant, on n'a jamais eu autant de candidatures. Et
ça ne s'empêche pas. Hein.
Et il y a plus de 8 millions de personnes qui regardent l'élection de Miss France chaque année. Je pense que l'élection de Miss France, surtout dans ce contexte très difficile...
Mais comment vous voyez Miss France, d'un mot, comment vous voyez Miss France dans 10 ans, dans 20 ans ?
Mais très bien. Je pense que Miss France sera et restera une jeune femme engagée. Effectivement, le concours Miss France fera toujours réagir parce que les Français adorent. Miss France, ça passionne. Et vous le voyez en ce moment, évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre.
Merci beaucoup, Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France. Elle est avec nous, je rappelle, Miss France 2021, c'est samedi 19, en direct du Puy du Fou. Et ce beau livre, Sylvie Tellier raconte Miss France 1920-2020. C'est aux éditions Hors Collection.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous, Sylvie. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un documentaire bouleversant sur une petite fille née dans le corps d'un garçon. Et Bertrand Chamerois pour son écran de veille consacré à un choix éditorial qui fait lui aussi beaucoup parler. Notre invité, c'est l'humoriste Samuel Bambi. On va lui parler avec lui du premier gala du Jamel Comedy Club sur Canal+. Et puis dans Les Indispensables, une série qui oscille entre les rires et les larmes et un hommage à la chanteuse Anne Sylvestre. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.